E-Radio, aujourd'hui en Europe.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Romain. On débute cette édition en évoquant de nouveaux épisodes rythmant les tensions entre Européens et Russes. Mardi, c'était au tour de la Lettonie de hausser le ton après que Moscou ait refusé de laisser passer des responsables lettons pour observer son armement.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Oui, cette procédure est régulièrement prévue entre les membres de l'OSCE, c'est l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Or, mardi, le ministère letton de la Défense a accusé Moscou, comme vous l'avez dit, d'avoir refusé ce contrôle de routine qui devait être effectué par des officiers lettons près de la frontière avec la Biélorussie.
Alors officiellement, Moscou a annulé cette inspection en raison de la crise sanitaire due au Covid-19.
Oui, ce genre d'annulation était fréquent au début de la pandémie, mais selon un porte-parole de l'OSCE, les États membres de l'OSCE toujours ont repris progressivement leur contrôle mutuel au fil de l'année 2021. Une situation sanitaire qui ne serait donc qu'un prétexte, selon les mots du ministre de la Défense letton. La Russie aurait même de son côté publié lundi 24 janvier une fausse déclaration en ligne présentant l'arrivée des fameux inspecteurs lettons.
Une désinformation et un manque de coopération que le ministre de la Défense letton, Artis Pabriks, n'a pas manqué de dénoncer. Avec ironie, il a souligné que la crise sanitaire n'a pas pour autant empêché la Russie de mettre en place de vastes manœuvres militaires.
Oui, on le rappelle, quelques 100 000 soldats russes sont actuellement rassemblés à la frontière avec l'Ukraine. Depuis cette semaine, un autre contingent de milliers de soldats russes a été également déployé en Biélorussie. Même chose en mer Baltique, où est présente une flotte d'une vingtaine de navires militaires russes. Alors toutes ces troupes sont officiellement en manœuvre ou effectuent des exercices, mais ces mouvements provoquent bien évidemment l'inquiétude des Occidentaux et au premier chef l'inquiétude de leurs alliés ukrainiens et baltes.
Et les tensions entre Européens et Russes occupent de plus en plus de place dans les affaires du continent et atteignent des secteurs qui étaient jusqu'à maintenant épargnés par ces affrontements géopolitiques.
Oui, on peut ici évoquer le cas des pêcheurs irlandais qui ont annoncé cette semaine qu'ils allaient perturber des manœuvres d'une autre flotte militaire russe actuellement présente au large de l'Irlande. Alors les navires russes se situent dans les eaux internationales, mais leurs exercices auraient un impact négatif sur la vie marine et donc sur la pêche en Irlande. Le responsable du syndicat des pêcheurs de l'Irlande du Sud et de l'Ouest, Patrick Murphy, a donc appelé mardi les navires de pêche à occuper la zone et même à aller confronter pacifiquement les navires de combat russes.
Continuons ce journal en nous rendant en Italie où une élection présidentielle a eu lieu cette semaine. Pour l'instant, 3 tours de scrutin ont été effectués, mais aucun vainqueur n'a été désigné. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation, Romain ?
Oui Thomas, les représentants italiens doivent voter pour le successeur de l'actuel président de la République italienne, Sergio Mattarella. Mais lors des 2 premiers tours, lundi et mardi dernier, plus de la moitié des 1000 représentants ont voté blanc, car leurs partis politiques respectifs n'étaient pas encore parvenus à s'accorder sur le candidat à soutenir.
Sergio Mattarella, on le rappelle, termine son mandat le 2 février prochain, et bien qu'il soit populaire, il a fait savoir qu'il ne souhaitait pas en entamer un nouveau. L'ex-premier ministre Silvio Berlusconi était lui aussi candidat à la présidence, mais il s'est finalement désisté samedi dernier.
Oui, et par conséquent, mercredi, à la fin du 3e tour, aucun candidat n'avait obtenu le score nécessaire à une victoire. Pour le 4e tour de jeudi 27 janvier, les règles vont donc changer. Pour être élu, désormais, un candidat ne devra plus obtenir la majorité des 2/3, mais seulement une majorité absolue.
Et ce rôle de président est essentiellement protocolaire. Mais alors, pourquoi autant de débats autour de son élection, Romain ?
Eh bien Thomas, cette fois-ci, les enjeux sont de taille dans la mesure où Mario Draghi, l'actuel Premier ministre, est aussi un candidat sérieux pour ce poste. S'il est élu, il faudra donc désigner un autre chef de gouvernement pour le remplacer. Une tâche autrement plus cruciale pour l'Italie, à l'heure où le Parlement est encore très fragmenté dans un pays qui s'efforce de mettre en place son plan de relance européen de 200 milliards d'euros et aussi, avant cela, de stabiliser son économie frappée de plein fouet par l'inflation.
Terminons ce journal en nous arrêtant en Serbie. Mardi, le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, a rencontré la première ministre serbe pour un conseil UE-Serbie. Sur quoi leurs échanges ont-ils porté, Romain ?
L'UE a tout d'abord félicité officiellement la Serbie pour avoir organisé un référendum dimanche dernier sur l'indépendance de la justice. La Serbie a en effet consulté ses citoyens sur la question de modifier ou non la constitution, et cela afin de donner davantage d'indépendance au pouvoir judiciaire, des résultats qui sont allés dans le sens d'une telle réforme.
Des réformes qui envoient un bon signal à Bruxelles alors que les négociations sont ouvertes pour une adhésion future de la Serbie à l'Union européenne.
Oui, en effet, la première ministre serbe a déclaré que, je cite, « l'état de droit, les réformes de l'administration publique, les réformes économiques ou encore l'agenda vert sont leurs principales priorités pour pouvoir intégrer l'Europe ».
Toutefois, si la Serbie montre des efforts notables en matière de réformes, la position de Bruxelles ne change pas. Il n'y aura pas d'adhésion tant que la question du Kosovo n'aura pas été résolue.
Oui Thomas, le Kosovo et la Serbie doivent, je cite, trouver un accord pour permettre au peuple serbe du Kosovo de voter comme d'habitude pour les élections serbes. C'est ce qu'a indiqué Josep Borrell. C'est selon lui une condition indispensable à la stabilité dans la région des Balkans. Mais le chemin est encore long. Un dimanche, par exemple, lors du référendum, les Serbes vivant au Kosovo espéraient pouvoir participer à cette consultation. Mais les autorités kosovares ont interdit l'ouverture des bureaux de vote.
Merci beaucoup Romain, merci pour votre attention.
C'était Aujourd'hui en Europe, à retrouver sur euradio.fr.